Bonsoir, je suis complètement indignée par les informations de ce soir. On était cet après-midi au rassemblement qui n'était pas autorisé à Place de la République. Et effectivement, il y avait des vandales, il y avait des gens qui étaient là pour casser du CRS, mais il y avait aussi les trois quarts des gens qui étaient là pour parler de climat et pour soutenir cette cause et pour faire nombre. Et je suis dégoûtée d'entendre encore une fois aux informations des putains de médias qui disent n'importe quoi, qui sont là à nous rabâcher le vandalisme du monument sur la République à cause des attentats. Alors, bien sûr qu'on y est attaché, mais c'est pas le cœur du sujet. Alors, encore une fois, est-ce qu'on pourrait déplacer vraiment le sujet au bon endroit? Ça serait être responsable, ça serait juste être intelligent, être un peu critique. Soyons critiques.
Hey Daniel, j'allume ma radio, mes France Info, et là j'entends un arabe, ça s'entendait dans sa voix qu'il était arabe, perquisitionné, une sale histoire. Et on l'a emmerdé au milieu de la nuit, il méritait pas quoi. C'est pas cool. Mais sauf qu'on interview, il se lâche, il dit qu'il veut pas qu'on le confonde avec tous ces malades mentaux. Eh bien, les malades mentaux vous disent, ne confondez pas avec les terroristes, s'il vous plaît.
Bonjour, merci à vous pour la conférence d'Alain Badiou. Merci mille fois pour cette lumière essentielle. Nous voici mieux éclairés et plus conscients des enjeux personnels et collectifs à relever. Pour les sans-boulot, eh ben, nous voilà avec une masse de travail et de réflexion à honorer. Salut, merci, c'était Angélique.
Alors, je viens d'entendre sur les antennes de France Inter que pour la COP21, ils allaient interdire la circulation automobile et mettre les transports en commun gratuits. Ben voilà, ils ont compris ce qu'il fallait faire. Il n'y a plus qu'à le faire 365 jours par an. Allez, bon courage.
Hier soir, le hasard est grand, j'allume France Inter. Et là, reconnaissant le ton si particulier de Frédéric Lordon, je me dis, sacrebleu, l'état d'urgence a des effets inattendus. Voilà que Laurence Bloch nous remermet à une heure de grande écoute encore. Bon, le journaliste, c'était Nicolas Demorand. Mais un téléphone sonne, avec pour seul invité Frédéric Lordon. Ça mérite de le faire mermer d'honneur, le petit Nicolas, non? C'était Christine du Limousin.
Hier, je regardais les news un peu à la télé, sur Internet. J'ai vu les portes d'un resto musulman qui s'était fait vraiment défoncer parce qu'il y avait un petit espace de prière pour les employés. J'ai vu les gens qui se rendaient à la COP21 embarqués ou alors refoulés à la frontière. Et donc, je voulais dire que ça faisait vraiment, vraiment plaisir de voir qu'on avait enfin le président de gauche pour lequel on avait voté. Bon, alors, si son modèle à gauche, ça avait pu être un autre que celui de la Corée du Nord, ça aurait été encore mieux. Mais bon, on va pas faire trop les difficiles quand même. C'était Fred de Toulouse. Salut.
Bonjour. Juste pour faire remarquer, on n'aura pas le rendez-vous mensuel avec le monde diplomatique ce mois-ci du mois de novembre. Je trouve ça un peu dommage, étant donné qu'il y avait un article sur Robespierre que je trouvais assez pertinent, surtout par les temps qui courent. Salut.
Salut et merci. Ben oui, non, on va avoir l'émission avec le monde diplomatique dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, on est bien entouré et on est quand même un tout petit peu inquiet de ce qui se passe suite à cet état d'urgence dans lequel nous sommes plongés et visiblement pour longtemps. On a sous les yeux le numéro du Monde du jour qui dit le plan de l'Élysée pour durcir l'état d'urgence. Pour parler de ça et pour nous éclairer, là il y a un hommage à Alain Badiou. Effectivement, la conférence d'Alain Badiou a fait un tabac sur le site de la Basse et j'y suis. Ça fait 1h46, on vous prévient. Eh bien, ça ne vous a pas arrêté puisque vous êtes plus de 50 000 à avoir écouté Badiou et cette longue conférence. Aujourd'hui, donc, l'état d'urgence, et on va en parler avec ceux qui sont fait coincer, qui ont été gardés à vue. Ils sont trois, ils s'appellent David, Aurélien et Grégory. Ils vont nous raconter comment et qu'est-ce qui s'est passé pour eux, suite donc à la manif de dimanche. Il y a aussi Olivier Besancenot, qui était dans le coup. Il va nous dire comment il n'a pas été, lui, gardé à vue. Il va nous expliquer. On a aussi Isabelle Attard. Isabelle Attard, elle est députée, mais c'est une députée très singulière, qui a une très grande indépendance de comportement et qui a voté contre la loi pour l'état d'urgence. Elle va nous dire pourquoi. Et puis, on aura par téléphone un assigné à résidence, qui est quelque part en France, je crois bien en Bretagne. Et puis le président d'une association qui s'appelle Baraka City et qui a subi des perquisitions et qui nous racontera comment tout ça s'est passé. Et puis pour finir, pour nous fâcher avec tout le monde, on aura notre chroniqueur de service Gérard Mordillat. Mais auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, dont je rappelle le numéro 01 85 08 37 37. 01 85 08 37 37.
J'ai reçu hier par mail une information sur la DRBRD, Directive sur le redressement des banques et résolution de leurs défaillances. Et en fait, elle a pour but de faire payer les déposants en cas de faillite des banques. J'aime beaucoup votre émission. Merci. Au revoir.
Bonjour, c'est dimanche. Je souhaite une bonne journée à ceux qu'on oblige à travailler le dimanche.
Bonjour, bonjour Daniel, bonjour à tous. C'est pour vous annoncer la projection du documentaire tiré du film de Naomi Klein, Tout peut changer, qu'on va réussir à diffuser à Juvisy-sur-Orge mardi 8 décembre à 20h30 à l'espace Jean Lursa. C'est place du Maréchal Leclerc à Juvisy-sur-Orge. Voilà, mardi 8 décembre à 20h30, le documentaire tiré du livre de Naomi Klein, Tout peut changer, sur capitalisme et crise climatique. Voilà. À bientôt, merci beaucoup.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base, si j'y suis. État d'urgence, le droit de la force ou la force du droit.
Flight number 2, arriving from New York.
Mes chers compatriotes, nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire.
Vous êtes des monstres! C'est pas eux les ennemis!
Bon, vous la laissez tranquille, hein? Oh là là, c'est quoi ce regard là? Doucement, monsieur, hein? C'est très violent là, il y a les CRS qui sont en train de choper les gens. Ils les attrapent très très violemment.
Honte à vous!
Honte à vous!
On n'est pas violents!
Sans haine, sans armes et sans violence. De résistance en désobéissance.
Coup la chaîne humaine, les CRS qui se rapprochent, c'est la même scène que tout à l'heure.
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence.
2000 perquisitions, plus de 200 gardes à vue, des assignations à résidence et des comparutions immédiates hier soir. Nathalie Hernandez, un premier bilan après plus de 2 semaines d'état d'urgence.
Alors ce qu'on sait clair, c'est que cet état d'urgence a conduit à 346 procédures judiciaires selon le Premier ministre. Ce sont aussi bien des enquêtes que des poursuites judiciaires ou des comparutions immédiates. Et il y a déjà eu, vous l'avez dit, 2 condamnations après les débordements place de la République dimanche. 2 personnes ont été jugées hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Un jeune homme de 28 ans a écopé de 3 mois de prison ferme pour avoir jeté un projectile sur un policier. Le fonctionnaire a été légèrement blessé. Une condamnation bien sévère pour son avocate. Son client, dit-elle, n'a rien d'incasseur et il a servi d'exemple. Le parquet qui avait requis 8 mois, dont 4 fermes et surtout un mandat de dépôt à l'audience, eh bien le parquet a décidé de faire appel. Une jeune femme a été condamnée à une amende de 1 000 euros pour avoir refusé de donner ses empreintes digitales. Enfin, parmi les quelques 300 assignés à résidence, 26 sont considérés comme des militants radicaux et violents, suspectés d'avoir voulu s'opposer à la COP21. De nombreux recours contre ces assignations ont été déposés devant le tribunal administratif. Ils ont été rejetés et c'est maintenant au Conseil d'État de trancher.
Voilà, bah autant vous le dire, nous on est cernés par les casseurs aujourd'hui dans ce studio, le studio de là-bas si j'y suis, puisqu'ils y étaient, Il y en a trois au moins qui vous avouez que vous y étiez.
Oui, on avoue, on assume pleinement et on reconnaît que c'était un choix politique. Ce n'est pas un hasard si on s'est retrouvé place de la République précisément
voilà,
à cette
voilà,
heure.
Voilà, c'est Grégory qui parle.
C'est ça.
Voilà, c'est Grégory qui avoue, Aurélien, qui avoue aussi.
Moi, j'avoue totalement. Quand j'ai vu qu'on interdisait les manifestations, en fait, je me suis dit, il faut qu'on soit là parce que c'est pas possible qu'on
il
nous
suffit
arrache.
Suffit qu'on te dise que c'est interdit pour que ça tu y ailles.
Mais je me suis dit, c'est pas possible qu'on nous arrache en fait ce droit de manifester, parce que moi je suis syndicaliste enseignant comme mon collègue Grégory. Nous, on s'est battus. Nous, chaque fois qu'on fait grève, on a besoin de manifester. Et on nous dit, si on nous arrache ce droit-là, c'est pas possible. On pourra plus rien faire dans ce pays. Donc, effectivement, c'était un choix politique.
David ?
Oui, moi aussi, j'assume ma présence Place de la République dimanche. Donc, moi, j'avais
Tu étais prof de sciences économiques.
Oui, c'est ça, en Seine-Saint-Denis.
À Aubervilliers, oui. Bon, enfin, toi, c'est déjà... Ouais, quand même.
Déjà, voilà, je suis suspect, de fait, de par ma profession et mon secteur géographique.
Profession, non. Prof de sciences économiques, c'est bien, ça commence bien.
Donc, moi, j'avais déjà prévu de venir avant l'interdiction de la manifestation, parce qu'il me semblait important de faire entendre une voix anticapitaliste et un peu dissidente sur la COP21. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier le fond de l'histoire. Certes, il y a l'état d'urgence, donc depuis quelques semaines, qui nous empêche de manifester, d'exprimer nos opinions. Mais il faut aussi bien comprendre que si on était là, c'était aussi avec un objectif politique de se regrouper entre militants politiques, associatifs et syndicaux pour faire entendre une autre voix, une voix anticapitaliste, notamment par rapport à la COP21 et par rapport à l'état policier qui se met progressivement en place en France.
Bon, on va parler de votre garde à vue, Grégory.
On a été transféré par petits groupes, en fait. On est arrivé avec le gros... On a été transféré d'abord au commissariat de rue de l'Évangile, puis on a été distribué derrière Pajol. On a été distribué, en fait, dans différents commissariats et... menottés dans le dos, dans les voitures, on nous baladait dans différents commissariats qui n'étaient pas habilités à nous recevoir. Donc menottés. On a vécu un moment kafkaïen, on ne savait pas trop pourquoi on était là. Des policiers passaient devant les cellules. Nous, on avait une visibilité devant les cellules. On était en cellule.
Menottes, cellules,
pas de repas, enfin le classique ordinaire du gardé à vue. Et donc, on se retrouve avec des policiers qui passent en courant devant les cellules. On a évidemment un œil totalement aveugle sur ce qui se passe, puisqu'on a à peine les pendules pour avoir l'heure. Et on voit donc les photocopieuses qui marchent à plein régime pour sortir les notifications de garde à vue, les gens qui se pressent, qui vont aller chercher les gilets pare-balles pour partir en intervention. Ah, mais non, c'est pas ce groupe-là qui part. En fait, il faut que tu amènes telle et telle personne dans un autre commissariat. Bref, on est dans une frénésie sécuritaire aveugle.
Olivier Besancenot, vous le connaissez, on le présente même plus, c'est bien, c'est pratique. Et Olivier Besancenot était là, était dans la manif, mais toi, t'es passé au travers. T'as pas été en garde à vue.
Non, j'ai pas été en garde à vue.
Et qu'est-ce que tu faisais là? Tu respectes pas du tout l'opinion générale.
On m'a dit que les magasins étaient ouverts le dimanche.
Ah bah oui.
J'étais place de la République, en me disant quand même, la France va mieux, et puis finalement, les boutiques étaient fermées. On était présents pour... dans la continuité, en effet, de l'action qui a eu lieu quelques heures avant sur la COP21 dans le cadre de la coalition climat qui était la chaîne humaine. Il y a eu un prolongement sur ces questions-là et donc sur la possibilité de continuer à manifester, ce qui n'est pas une petite affaire. Nous, on l'a fait comme on le fait habituellement, c'est-à-dire de façon militante, en cortège, organisé. Et la petite anecdote, c'est qu'on a donc négocié avec les forces de l'ordre pour pouvoir avoir accès à la place qui était fermée à 14h, qui était le lieu du rendez-vous. On a eu l'autorisation de rentrer sur la place, en cortège, ce qu'on a fait, absolument.
Je croyais que c'était complètement interdit. D'accord.
Voilà. Non, il y avait un accord. On a fait plusieurs fois le tour de la place.
Qui avait un accord? Le NPA?
Le cortège où on était, là il y avait le NPA, clairement identifié. Il y avait aussi des militants d'Alternatives Libertaires, des militants d'Ensemble. On a fait plusieurs fois le tour de la place. Quand il y a eu les premiers gaz lacrymo un peu trop soutenus, et après avoir finalement, à notre échelle, pensé avoir fait une démonstration qu'on pouvait manifester sur cette place-là, on a voulu donc, c'est très rapide, tout ça dans le temps, quitter la place. On a négocié avec les mêmes interlocuteurs pour quitter la place, ce qui nous était refusé. Et à ce moment-là, le cortège identifié par les forces de l'ordre, c'est-à-dire par la préfecture, NPA, AL et des militants d'Ensemble, a été encerclé, il y a eu du pouce-pouce avec les forces de l'ordre, et donc là, au fur et à mesure, ça a duré plus de 3h30, les forces de l'ordre sont venues piocher dans notre cortège, Je pense environ 150 interpellations, quoi. Voilà. Et comme à la fin, il y a quand même un délai et qu'il faut bien l'avouer, visiblement, dans ces temps d'urgence, les forces de l'ordre semblent manquer malgré tout de moyens, en tous les cas, au niveau des paniers à salade. Le petit groupe, je ne sais pas, on devait être une soixantaine, a été relâché après un contrôle d'identité. Voilà.
Isabelle Attard, vous étiez dans la manif, vous ?
Non.
Je rappelle que vous êtes députée du Calvados.
Moi, j'étais à la chaîne humaine la veille à Caen, où on est 400 personnes, avec le commissaire de police qui essayait de me dire... que malgré mon écharpe, moi, je n'échapperais pas aux 700 euros d'amende comme tous ceux qui avaient une pancarte sur le dos. Et comme la chaîne humaine est partie, bon, on leur a dit, en fait, on leur a dit merde. Mais on a fait cette chaîne humaine.
Bon, pour une fois qu'on est content, on est fier, on a une députée, on a quelqu'un de bien, d'officiel et tout.
À chaque fois, c'était un regroupement pacifique. À chaque fois, c'était un regroupement avec un message fort. Changeons le système, pas le climat, c'est quand même quelque chose effectivement de politique. Et moi, dimanche, je n'étais pas à République parce que je faisais de la pédagogie. Je vais au repas des anciens.
À Caen, à Bayeux ?
Non, à Bayeux, dans les alentours, etc. Et je me dis, je me dois d'expliquer. Je me dois d'expliquer mes votes, je me dois d'expliquer ce qui se passe. Puisqu'il n'y a qu'une pensée unique retransmise dans les médias, alors ça prend du temps parce que, évidemment, ce n'est pas en 4 minutes, ce n'est pas en 4 secondes que vous allez expliquer les dangers de l'état d'urgence, ni que vous allez expliquer que vous pouviez faire des perquisitions sans état d'urgence. Mais c'est nécessaire parce que qui va le faire ? Qui va le faire à notre place ?
Les amis, on peut quand même comprendre qu'après ce choc du 13 novembre, on peut tout à fait comprendre que on vit un traumatisme, on est tétanisé et qu'on a envie de sécurité, on a envie d'être protégé. Je crois que c'est une aspiration tout à fait légitime et il est du devoir de la puissance publique d'assurer la sécurité de chacun d'entre nous. J'ai noté tout à l'heure un vieux truc de Lacordaire qui dit « Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui affranchit ». Il y a des moments où la loi doit être appliquée en matière de sécurité.
L'aspiration à la sécurité, bien sûr qu'on peut la comprendre en quelque sorte. Moi, je crois surtout que ce qui permettrait de rétablir la sécurité dans ce monde, ça serait peut-être qu'on arrête un peu toutes les interventions impérialistes qu'on fait un peu partout. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, en plus, c'est qu'on nous parle de sécurité, mais on interdit les manifestations politiques et syndicales. Mais dans le même temps, on autorise les marchés de Noël, on autorise les matchs de foot. Alors que quand même, il y a des gens qui se sont fait exploser près d'un match de foot. Donc en fait, les cibles, elles sont clairement désignées. Voilà, elles sont clairement désignées. L'état d'urgence n'est pas du tout destiné à assurer notre sécurité. Aujourd'hui, il est avant tout destiné à faire taire, justement, les voix contestataires, les voix qui disent qu'il faut une réponse, effectivement, de gauche aux attentats, que cette réponse, c'est justement défendre les libertés démocratiques, contester les guerres impérialistes, etc. Voilà. Et pour moi, c'était une démonstration flagrante de ce qui s'est passé dimanche.
Criminaliser le mouvement social, quoi, en fait. Hein. C'est ça la crainte.
On en a pour preuve le dispositif même policier qui nous a été ensuite magnifiquement expliqué dans les chaînes d'information en continu, ce fameux encagement dont on nous a parlé des manifestants. Il ne s'agissait ni plus ni moins que de masquer par les véhicules de police, toutes les caméras, notamment, qui étaient en place sur la place de la République. Nous étions coincés avec le cortège d'environ 150 personnes à l'angle avec la rue du Faubourg du Temple. Et on a très bien vu qu'au fur et à mesure de l'arrivée des véhicules de police, les caméras étaient masquées. Donc il s'agissait bien d'une opération politique pour éliminer médiatiquement toute une frange politique de voix contestataires. Ni plus ni moins.
Vous avez quel âge ?
Pour ma part, j'ai 31 ans.
Oui.
Moi, j'ai 29.
25. Et David ?
25 ans. Oui. Ouais.
Bon. C'est rassurant, franchement. On a vraiment l'impression que l'histoire continue. Tu voulais parler, David ?
Le but, en tout cas, qu'on s'était fixé dimanche, c'était notamment de dénoncer la criminalisation du mouvement social via l'appareil sécuritaire et l'appareil militaire. Je pense que c'est ça le fond de l'histoire, effectivement, parce qu'on nous parle de sécurité, mais on ne parle jamais d'insécurité sociale, on ne parle jamais de l'insécurité que vivent une large part de la population, qui se trouve victime de discrimination. Donc elle est là, la réelle violence. La violence, ce n'est pas les manifestants qui la mettent en place. La violence, elle est quotidienne. La violence, elle est au travail, elle est dans les quartiers. On la vit tous les jours, la violence. Donc je pense qu'à un moment, effectivement, les gens ont envie de s'exprimer. Et effectivement, c'est d'autant plus scandaleux que l'État veuille enlever cette liberté de s'exprimer, liberté de manifester.
Je rappelle que l'état d'urgence est une protection qui nous permet d'agir dans un cadre de droit pour que l'ordre public soit garanti.
Là, ça prend le boulevard. Et là, il y a les policiers en face.
Il ne vise en aucun cas à empêcher les mobilisations citoyennes ou sociales dont les attentes et revendications doivent bien entendu pouvoir s'exprimer pleinement.
Protéger le climat et pas les capitales.
L'état d'urgence est là précisément pour protéger nos libertés.
Charge des CRS là et de la lacrymo, ça reflue. C'est la jeunesse là, de France, la jeunesse qui défend l'environnement, qui défend la paix, le droit de manifester, qui est chargée et la et ceux qui ont tiré des lacrymo.
Alors, je vous propose d'écouter Gauthier, qu'on a au téléphone, et qui est à Rennes. Gauthier, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes assigné à résidence.
On est 5 personnes assignées à résidence à Rennes.
5, oui.
Comment ça s'est passé? C'est que les policiers sont arrivés dans les différents appartements entre 10 et 11 heures du matin, et ils sont arrivés à une vingtaine avec fusil d'assaut, fusil à pompe... Ils commencent par mettre les gens au sol, les menotter, fouiller toutes les pièces de l'appartement sans prendre le soin de nous dire que c'est une perquisition ou de nous emmener avec eux, comme normalement c'est la procédure. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ils nous disent en fait c'est pour une assignation à résidence et on vous remet juste un papier.
De quoi on vous soupçonne
On nous soupçonne de vouloir se rendre à Paris pour participer à la COP21 et organiser des violences ou des débordements.
Ah, c'était avant la manif?
C'était avant la manif, c'était jeudi.
Ah, jeudi, d'accord.
C'était juste avant le week-end, et ça court jusqu'au 12 décembre, jusqu'à la fin de la COP21. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, pour justifier ces soupçons d'intention, hein, c'est que ça, il y a trois raisons en général. La première, c'est d'avoir participé à la manif du 22 février 2014 contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où il y avait 50 000 personnes. La deuxième, il y a des personnes qui ont été arrêtées... dans un squat à Milan, quelques jours avant une grande manif où il y avait contre l'exposition universelle, où il y avait le mouvement notable, des syndicats. Du coup, voilà, ça, c'est les renseignements italiens qui donnent des informations aux renseignements français. Et ensuite, on nous dit qu'on a participé à un week-end de mobilisation contre les violences policières dans le Finistère fin octobre, devant une usine de lacrymogène.
Gauthier, ça consiste en quoi être assigné à résidence?
Ça consiste en trois choses, en être... pointé au commissariat à 9h, 14h et 19h.
Trois fois par jour, tous les cinq, vous devez vous rendre au commissariat?
Oui, trois fois par jour, oui.
Mais vous avez des boulots, vous avez que ça à faire ou...
Non, on n'a pas du tout que ça à faire. Certains travaillent, d'autres sont étudiants, d'autres sont au chômage, mais aller travailler par exemple dans les transmédicales là, voilà, c'est sûr que ça hache la journée complètement et c'est, ça rend pratiquement impossible de s'organiser et de faire... de faire autre chose, ça rend la vie impossible. Ensuite, les autres obligations, c'est de rester chez soi de 20h à 6h et de ne pas sortir de Rennes. Voilà.
Gauthier, qu'est-ce que vous avez comme recours juridique, comme recours légal?
Pour ainsi dire, aucun, parce que on a du coup pris une avocate qui a mis un recours en urgence. Le tribunal administratif n'a pas examiné sur le fond, mais a juste déclaré qu'il n'y avait pas d'urgence. Et ensuite, elle a saisi le Conseil d'État. Là, on a appris aujourd'hui que en fait, le Conseil d'État, pareil, ne se réunira pas avant la fin de notre assignation à résidence. Du coup, en fait, on n'a là aucun moyen de se défendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toute la chaîne qui nous emmène à être assigné à résidence, ce ne sont que des décisions policières. C'est-à-dire que c'est les renseignements généraux qui donnent des informations au préfet, qui donnent ordre à des policiers d'arriver chez nous, qui nous assignent à résidence. Et il n'y a à aucun moment une instance tierce, comme la justice ou un tribunal, devant lequel on peut s'expliquer.
Ça dure jusqu'à quelle date? Vous avez dit jusqu'à la fin de la COP21?
Jusqu'au 12 décembre, oui.
D'accord. Vous voulez lui poser des questions, vous qui êtes là, non?
Moi, je voulais dire...
Isabelle Attard, qui est députée du Calvados, et qui a une question à vous poser.
Je pense que vous avez mis le doigt sur le sujet extrêmement important, parce que quand vous avez dit, vous êtes coupable d'avoir été à une manif contre Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'étais chez le couple de maraîchers bio qui a été perquisitionné en Dordogne. J'y étais lundi soir pour discuter avec Élodie et Julien. Et en fait, les gendarmes qui ont débarqué à 10, à 7 heures du matin chez eux, avaient aussi à leur reprocher leur présence dans une manif, dans une distribution de tracts au péage de Mussidan, il y a 3 ans, contre Notre-Dame-des-Landes. Bon, je pense que le gouvernement a déjà fait une fixette, c'est clair, sur le problème de l'aéroport, mais ça, on le savait déjà. Et ces gendarmes, quand ils ont débarqué chez Élodie et Julien, n'ont eu qu'un seul mot à la bouche, c'était COP21. C'est pas Daesh, hein. C'est COP21. Le mot-clé, c'est COP21. Place de la République, c'était ça. Pour vous, l'assignation à résidence, c'était la même chose. J'aimerais savoir ce que les policiers qui sont venus chez vous, c'était quoi les thèmes qui revenaient? Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'était
quel dialogue vous avez pu avoir avec ceux qui vous ont perquisitionné?
Pratiquement aucun, mais effectivement, les raisons, c'est les mêmes. C'est vraiment dans le cadre de la COP21 qu'on est soumis. Après, l'excuse qui est donnée, c'est qu'ils avaient besoin d'assigner des gens à résidence pour ne pas avoir besoin de mobiliser les policiers pendant les manifestations, pour que les policiers soient mobilisés pour arrêter les attentats ou je ne sais quoi.
Gauthier, qu'est-ce qui se passe si vous vous rendez pas au rendez-vous qui vous est fixé?
A priori, on est écroué. Il y a une personne à qui ça arrivait à Marseille.
Oui.
Où l'histoire est assez marrante parce qu'en fait, il n'a pas pu. En moment, je ne sais pas pour quelle raison, les policiers lui ont interdit de rentrer dans le commissariat alors qu'il devait pointer. Du coup, il s'est énervé, il a décidé de plus y aller. Et au bout de 3 jours, il a pris 6 mois de sursis. Après, rajouter quelque chose ou rebondir sur ce qu'a dit Isabelle Attard, je pense qu'il faut quand même aussi comprendre ce qui est en train de se passer, pas juste au regard des attentats qu'il y a eu à Paris. Parce qu'en fait, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui avait déjà commencé les gouvernements, au moins depuis l'affaire Tarnac, et qui a accentué le gouvernement Valls, avec les lois sur le renseignement qu'il y a eu cette année, avec la commission d'enquête, après la mort de Rémi Fraisse, sur la proposition d'interdire les manifestations aux personnes fichées. Et aujourd'hui, ça se passe pour la COP21. Et qu'est-ce qui va venir demain quand l'État va vouloir expulser la ZAD ou quand il y aura le prochain mouvement social?
Concernant la loi renseignement, on avait fait venir Olivier Besancenot avec d'autres invités sur cette loi. Je me souviens qu'on avait évoqué le Patriot Act, qui a suivi, comme vous le savez, l'attentat du 11 septembre. Et on avait des échos d'amis américains qui nous disaient surtout, il ne faut pas que la France aille dans cette direction. Ça faisait l'unanimité dans l'opinion américaine. Ce n'est pas seulement quelques énergumènes, quelques militants gauchistes. C'était vraiment l'opinion générale. Et on est en train de faire ça. C'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé. On sait ce qu'est le Patriot Act. On sait ce que ça a donné. On sait ce que la politique de Bush a donné à partir de cette date-là. On sait ce que les États-Unis ont fait en Afghanistan, puis en Irak. Et on prend le même chemin, on fait une espèce de version du bushisme à la française, et on fait un Patriot Act à la française, sachant très bien ce que ça va donner. La politique de Bush a donné Guantanamo, a donné Abu Ghraib, a donné la destruction, le chaos le plus terrifiant en Irak, etc. Et on suit, il y a comme une sorte de modèle.
Bah, disons que malheureusement l'histoire se répète un peu. Alors, le problème pour le comprendre, c'est vrai que ça a de la fameuse stratégie du choc dont parle Naomi Klein, c'est-à-dire comment on utilise un choc émotionnel créé dans la population pour saisir l'opportunité politique. Et c'est ça qui est sordide, qui est minable dans l'instrumentalisation qui est faite des attentats. Là, comme l'a dit Gauthier, comme l'ont dit d'autres, on a des projets de loi qui dorment dans les tiroirs depuis maintenant plusieurs années, qui concernent tout ce qui touche à la contestation sociale ou politique, c'est vrai notamment pour les zadistes, qui existaient avant les attentats, qui ont été ressortis au goût du jour après les attentats, c'est la loi de renseignement. Et là, avec ce qui est en train de se passer, l'exemple, par exemple, des assignés va être probablement généralisé dans une proposition politique qui va tomber sur la table de l'Élysée dans quelques jours. C'est-à-dire l'idée que ça soit en effet maintenant une chaîne de décision policière où on court-circuite tous les recours judiciaires possibles. Toute la campagne de propagande à laquelle on a eu le droit dimanche, elle va maintenant se répéter. C'est-à-dire qu'on aura un discours politique qui consiste à dire que toute manifestation est une profanation de la mémoire des victimes des attentats. Voilà. Avec une campagne, des images, chocs, en boucle, d'autres images qu'on n'a pas vues du tout circuler, comme les manifestants qui protègent le mémorial, par exemple.
Et surtout, attends.
Et des forces de l'ordre qui piétinent le mémorial.
Oui, ça, sur le site de la base, j'y suis, et sur d'autres sites, mais vous pouvez voir ces CRS qui piétinent joyeusement.
Des réseaux sociaux.
Enfin, joyeusement, non, sans doute pas,
on
les gars.
Des réseaux militants, des réseaux sociaux, mais le problème, c'est, on le sait tous, c'est qu'il y a toutes ces personnes auxquelles on n'a pas encore accès, et qui reste sous cette espèce de rouleau compresseur de la propagande qui consiste à dire manifester aujourd'hui, est-ce franchement raisonnable ? Voilà. Donc le problème, et l'état d'urgence a une fonction politique. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher à le rendre le plus permanent possible et instrumentaliser ce qui s'est passé pour revenir sur des vieux dossiers ou sur des dossiers à venir. Parce que dans la société dans laquelle on est, on sait bien que la question sociale ne peut pas disparaître comme ça, que les zadistes ne vont pas rendre les armes comme ça, que ceux et celles qui se mobilisent sur des questions démocratiques, par exemple, aux côtés des réfugiés et des migrants, ne vont pas rendre les armes comme ça. Et ça, le gouvernement le sait. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de cynique et de sordide. Ils le pensent, ils le savent, ils le font. Et ça, c'est
on peut voir ça dans l'usage du mot « guerre ». C'est la guerre. C'est le mot qui est apparu tout de suite dans les heures qui ont suivi la tuerie du 13 novembre. On a entendu ce mot « guerre ». C'était la
George
guerre.
Bush. George Bush, c'était le concept de guerre.
Voilà.
Ininterrompu dans le temps et dans l'espace.
War and terror.
Voilà.
Et en temps de guerre, le droit change. Il faut d'abord qu'on installe cette idée de guerre, cette image de guerre, ce symbole de guerre, même si c'est, les sondages indiquent que pas plus de 3% des Français sont prêts à faire la guerre. Donc je ne pense pas qu'il y aura des troupes. Il faudra faire de la conscription violente hein, pour qu'on y arrive. September the 11th. Enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday. Terror. La France est en guerre. Terror. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre.
Ce que je veux dire aux Français, c'est que nous sommes en guerre. Le président de la République l'a dit avec force ce matin. Known as Al-Qaeda. They were some of the murderers indicted for bombing American embassies in Tanzania and Kenya. And responsible for bombing.
La France Terror. Intensifiera ses opérations Terror. En Syrie. Terror. Hier soir, j'ai donné l'ordre Terror. À 10 chasseurs bombardiers français Terror. De larguer leurs bombes Terror. Sur le fief de Daesh Terror. À Raqqa. Terror. La France est en guerre.
D'abord, nous sommes face à un niveau de menace très élevé. Et ce niveau de menace très élevé appelle
Bernard Cazeneuve.
Une responsabilité collective sur tous les bancs de cet hémicycle.
1er décembre 2015.
Cette menace très élevée implique que les forces de sécurité qui sont sous ma responsabilité, lorsqu'il y a notamment des manifestations, soient mobilisées exclusivement sur la lutte antiterroriste. Je ne veux pas, je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs, parce qu'ils ont décidé, dans l'irrespect complet, y compris l'irrespect de la mémoire de ceux qui sont tombés, de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'État et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent. Je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont monsieur ma mère qui s'agite, sont dans l'irresponsabilité totale et je tiens à le dire très clairement ici. Je tiens également à préciser que toutes les dispositions ont été prises par mes soins pour que l'état d'urgence soit respecté dans ses principes. Et pour ce qui concerne les militants écologistes, il n'y en a eu aucun d'assigné. Ceux qui ont été assignés, ce sont des individus violents.
Ah, voilà, voilà, des casseurs et des individus violents. Il y en a pas mal dans ce studio. Isabelle Attard, vous avez voté contre cet état d'urgence. Vous êtes très minoritaire. Vous étiez combien ? Six ?
Six.
Six. Ouais, six. Ouais. Pourquoi vous avez voté contre ?
Parce que déjà, ça fait des années que je sens cette atmosphère venir. Vous l'avez tous dit, tous les quatre. C'est pas d'hier, c'est pas des attentats et c'est même pas de Charlie Hebdo. On voit cette dérive vers l'état policier où on essaye d'écarter de plus en plus la justice jusqu'à la supprimer complètement. C'est pas d'hier. Et quatre lois, en fait, il n'y a pas eu que deux, il y a eu quatre lois qui traitent au renseignement et à l'antiterrorisme depuis 2012. On voit l'état qui se braque. Mais quand un État en est arrivé à une telle violence, c'est aussi un État qui a peur.
Qu'est-ce qu'ils disaient, vos confrères, vos collègues députés ?
Ah, c'était intéressant. C'était ouais. Très intéressant de les entendre parce qu'en fait, ils étaient d'accord avec moi sur, voilà. Sur les risques de l'état d'urgence, sur les dérives potentielles. Ils en étaient conscients. Mais leur discours était « Mais tu sais, Isabelle, on n'arrivera pas à l'expliquer. On n'arrivera pas à être audible dans nos circonscriptions. Et puis tu sais, Isabelle, il y a les élections régionales qui arrivent.
Oui. » Et oui.
Et oui, bien sûr. Donc, c'était en fait la peur de ne pas trouver les mots, c'était la peur d'être insulté, c'était la peur d'être critiqué. Alors, je les comprends, puisque je l'ai été. Mais il faut aussi peser, il faut aussi mesurer les critiques par rapport aux messages d'encouragement. Et lorsqu'on mesure, j'avais quoi ? 3/4 d'encouragement et de soutien pour 1/4 d'insulte. Alors, finalement,
ça va.
Oui. Mais c'est très important de faire entendre une autre voix. Et c'est très important d'être lucide sur ce qui se passe aujourd'hui. Et ce que je voulais dire à Olivier par rapport au Patriote Act, c'est que, en fait, on a fait pire que Bush. Et c'est Naomi Klein qui l'a mis sur les réseaux sociaux juste après les incidents en République. Elle a dit quoi ? Elle a dit « Même Bush n'a pas interdit les manifestations. Oui, oui. Même Bush !» Non mais c'est grave.
C'est-à-dire que
nous avons, avec nos petits chefs de guerre et nos va-t-en-guerre en puissance, nous avons fait pire que Bush. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. Le Patriot Act, ça a également fait écho de manière très forte parce que le patron de la NSA, qui a été auditionné par le Congrès sous serment, il a dit quoi ? Il y a quelques mois, il a dit « Le Patriot Act n'a servi à déjouer aucun attentat. Aucun. Des milliards et des milliards de dollars engloutis dans une machine infernale qui finalement n'a servi aux États-Unis qu'à mettre sous muselière les mouvements écologistes. On a quoi aujourd'hui en France ? On a une mise au pas de toute la contestation sociale, écologiste de ce pays.
Oui, c'est-à-dire de la vie démocratique, politique.
Ceux qui contestent le modèle économique, ceux qui contestent le capitalisme. Et Naomi Klein serait ici, elle aurait été embarquée dans le panier à salade dimanche à la République. Parce qu'elle l'a bien dit dans son livre, elle l'a bien dit. Sauver la planète, ça passe par une remise en cause du système capitaliste. Je suis contente qu'il y ait des anti-COP21, ou en marge de la COP21. Qu'on puisse quand même, malgré la chape de plomb, faire entendre une autre voix. Parce que la COP21, si c'est pour entendre des chefs d'État parler avec les mots de Total ou d'autres compagnies qui exploitent les énergies fossiles, pour moi, c'est une COP21 qui servira à rien. Soit il y a des discours francs, soit il y a des discours lucides, soit il n'y en a pas.
Mais ce qui ressort de ce que vos collègues vous ont dit, c'est quand même, je reviens à ça, une attente de l'opinion, une attente des Françaises et des Français d'une demande de sécurité. Je me souviens, je reviens à l'exemple américain, il y a eu des sondages peu de temps après l'attentat du 11 septembre, et on demandait aux Américains, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ne vous dise pas tout dans les médias ? Et qu'on vous dise certaines choses et pas d'autres. Ils sont très attachés à la liberté d'expression. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Et ils disaient, oui, oui, d'accord. Manipulez-nous.
Manipulez-nous. Oui, et puis après, ils sont revenus quand même.
Et après, ils sont revenus. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation-là ? Et on voit, j'ai l'impression, de jour en jour, des gens qui sont en train de prendre conscience qu'on est en train de se faire rouler dans la farine. Au fur et à mesure que l'état de terreur va en s'amenuisant, il va y avoir un réveil, une sorte de gueule de bois, non ?
Non, mais dans ces périodes-là, je pense que le propre de ces périodes-là, c'est que le temps peut s'accélérer très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Pour ça, je parle de l'opportunité politique et du moment politique que le gouvernement connaît et saisit. Là, on l'a pris sous l'angle sécuritaire, à juste titre, et c'est qu'il n'y a eu que 6 députés. Et ils ont eu du courage parce que j'imagine qu'ils ont dû s'en prendre plein la tête. Mais qu'on n'ait pas réussi à en trouver plus que ça, c'est quand même hallucinant dans ce qu'on sait, ce que ça peut signifier. Avec le discours, en effet, de Versailles, qui est un discours sécuritariste, va-t-en-guerre, mais qu'elle est même au-delà. Parce que si on parle d'aller à contre-courant des mesures qui peuvent paraître un peu anodines, mais qui ne le sont pas du tout, reprendre l'idée de la déchéance de la nationalité pour ceux qui ont commis des actes terroristes et qui sont nés en France, qui va être renforcée visiblement...
C'est le titre du
aussi,
monde d'aujourd'hui. Hein.
Dans les jours qui viennent, c'est pas une petite affaire. Ça a une histoire, cette proposition politique. Elle vient de l'extrême droite. Elle a été reprise par Sarkozy en 2010 dans son projet de loi sur l'immigration, à l'époque, pour ceux qui étaient suspectés d'avoir commis des actes contre les forces de l'ordre. À l'époque, tout le monde était vent debout contre cette mesure-là, à juste titre, y compris le Sénat, d'ailleurs, en rappelant l'histoire de cette proposition qui vient de l'extrême droite des années 30, qui a été mise en application sous Pétain pendant la collaboration, avant d'être annulée par la Libération, et qui consiste en effet d'établir une catégorie entre les personnes. Enfin, comment dire, le comble du comble, c'est le discours de Valls. Quand on établit cette catégorie au sein de la population, entre les bons et les mauvais, ce petit jeu, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, et ça dépend de quoi ? De ceux qui détiennent le pouvoir. Donc si Valls croit un tant soit peu à ce qu'il raconte, c'est-à-dire que le Front National est aux portes du pouvoir, qu'est-ce qu'il est en train de faire à part leur préparer le terrain ? Je me demande même qu'est-ce qui va lui rester à faire, Marine Le Pen, quand elle arrive au pouvoir à ce rythme-là. C'est quand même délirant. Et là, ce n'est pas une petite affaire dans le tournant politique qui est pris. C'est pour ça que moi, je pense qu'en effet, il y a de la réaction. Enfin, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a rien à faire. Loin de là, je pense dans ce qui est en train de se passer. Les appels qui sont pris unitaires ici ou là sur le droit de manifester, sur l'état d'urgence, c'est des choses extrêmement importantes parce que Dans le tournant politique, on connaissait quand même la conversion sociale-libérale du Parti Socialiste et de sa direction pour faire soft. Mais là, sur des questions comme celle-là,
L'approbation du Front National, la droite, l'extrême droite sont entièrement d'accord, il est soutenu, François Hollande est soutenu, Valls est soutenu par Marine, ils sont sur le même plan, ça s'appelle un Front National.
Et c'est pour ça que j'insistais sur l'histoire de la déchéance de la nationalité, parce que paraît-il 90% de la population est favorable à cette mesure-là. Mais quel est le problème? C'est qu'au-delà de son aspect illégal, parfaitement inefficace, parce que si tant est qu'on soit suspecté d'avoir commis des crimes particulièrement atroces, vaut mieux les rendre à la justice du pays auquel on appartient plutôt que nulle part si on est apatride. Mais le fond du discours, c'est quoi? C'est d'établir un corollaire entre immigration et terrorisme. Et avant de pleurer sur les victoires électorales à venir du Front National, on va peut-être commencer à comprendre les victoires politiques et idéologiques qu'a engrangé le Front National en 15 ou 20 ans dans la classe politique. Sur ces fameuses équations, insécurité, immigration, terrorisme, immigration. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Toutes ces batailles politiques que le Front National a déjà gagnées, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le Front National, il se dit que sur les questions d'immigration, d'insécurité, plus besoin de l'ouvrir. On va parler de quoi? D'autres choses, des questions sociales.
On
arrive aussi à ce type de situation.
Anime, hier soir, j'ai entendu et j'ai vu vos partisans, ils vibrent quand vous dénoncez le chômage, les migrants, l'insécurité, l'islamisme radical.
3 décembre 2015.
Et hier, Bernard Cazeneuve a fermé 3 mosquées, a dissous des associations soi-disant cultuelles.
Combien ?
4. Il a décidé, mais il y en a peut-être d'autres, il a décidé de continuer, il a expulsé des imams. Est-ce que vous pensez qu'il est sur la bonne voie ?
Oui, le problème du Parti Socialiste, c'est que quand ils vont sur la bonne voie, comme vous dites, ils s'arrêtent à mi-chemin.
Marine Le Pen.
Ce que je crains, c'est le côté cosmétique. Voilà.
C'est-à-dire, vous souhaitez que l'état d'urgence continue?
Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu Manuel Valls entrer, soi-disant, en guerre contre l'État islamique après les attentats du 13 novembre. Et j'ai vu aussi que ça a duré 15 jours. Et au bout de 15 jours, Manuel Valls, il a repris la guerre contre le Front National.
Là, vous avez été prévenu. Voilà. S'il y a la menace qui continue, l'état d'urgence continuera. Là, vous y êtes favorable.
Mais comment peut-on envisager un état d'urgence, monsieur El Kabbach, à partir du moment où on sait que dans une semaine, on va réouvrir les frontières, qu'il n'y aura plus de frontières nationales?
Pardon, j'ai entendu Bernard Cazeneuve dire non, elles resteront fermées avec des contrôles tant que la menace durera. Et comme la menace durera, on peut l'imaginer.
Donc nous avons retrouvé nos frontières nationales. Mais que monsieur Cazeneuve le dise, parce que ce serait une information très importante. Non. Alors, la réalité, c'est que les frontières sont fermées pour quelques semaines ou quelques jours, et elles ne le sont pas définitivement.
Je voudrais revenir sur nos trois amis enseignants, là, David, Aurélien et Grégory, profs de sciences économiques. Prof de quoi, vous, Aurélien et Grégory?
Moi, je suis en lettres classiques.
Et puis?
Et moi, en lettres modernes. Donc,
oui. Et vos élèves, comment ça se passe avec vos... D'abord, vous avez séché, vous étiez en retenue. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collégiens? Ils vous applaudissent, waouh, super les profs, ou au contraire, vous êtes de dangereux casseurs?
Justement, quand on parle de...
Vous profanez la mémoire des victimes.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous, on s'est mis en grève par solidarité avec les collègues qui étaient en garde à vue. Il y a un lycée à Colombes, Guy de Maupassant, qui s'est mis en grève aussi pour leur collègue Yannick Néné, qui était aussi en garde à vue. Et ce qui était plutôt intéressant, c'est que, par exemple, il y avait des parents d'élèves qui sont venus nous voir, des parents d'élèves, y compris, qui étaient assez remontés, qui disaient « Attendez, il y en a un de vous qui est en garde à vue, vous n'allez pas vous mettre en grève, nos gamins, ils sont plus courts, déjà, les profs, ils ne sont pas remplacés, etc. » Bon, et bien qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a expliqué la démarche, on a expliqué tout ça. Et en réalité, alors c'était une minorité de parents qui était là, hein. Mais parmi cette minorité de parents, en fait, il y en avait une majorité qui à la fin nous a dit « mais en fait, vous avez raison ». Et moi, je crois que ce qui est important, c'est que nous, on réussisse à faire entendre une autre voix, et c'est pour ça que c'est important. Je pense qu'il y ait des collèges qui soient mis en grève, des lycées qui soient mis en grève, pour justement, dans ces moments-là, c'est là qu'on a besoin de la force, justement, des travailleurs. Et j'ai envie de dire, en 14, il y avait une Union nationale aussi. Les gens, ils étaient très minoritaires, hein, les socialistes qui étaient contre la guerre. Mais ils étaient encore, sans doute encore plus minoritaires que nous. Mais ils étaient minoritaires au début. Et puis à la fin, petit à petit, par le petit travail de fourmi, ben, ils ont réussi à faire que... Et puis la guerre faisant son travail aussi, ils ont réussi à faire que la majorité des gens ont dit « La guerre, c'est dégueulasse, on n'en veut plus. »
Oui, et puis ils sont surtout... l'honneur et la lumière de l'humanité, à commencer par un certain Jaurès. Il n'était pas majoritaire.
Il n'était pas nombreux.
Il n'était pas nombreux.
Il a été tué après.
Il a été tué au moment même où la guerre s'est déclenchée. C'est pas mal d'évoquer ça, je crois, aujourd'hui, union sacrée. David, oui. Tu voulais réagir.
Tu demandais quelle était la réaction de nos élèves, notamment suite à notre garde à vue, et même plus largement après les attentats. Et ben, les élèves ont peur. Parce qu'effectivement, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos communes, les mosquées sont perquisitionnées, les contrôles d'identité sont renforcés à l'encontre des personnes musulmanes ou considérées comme telles. Et effectivement, nos élèves parlent effectivement...
Ouais, enfin, c'est le faciès, là. Rien ne prouve, peut-être que tu es musulman, si ça se trouve. Bah, on ne vous a même pas demandé vos papiers, rien en entrant ici.
C'est toute une logique raciste d'assimiler une minorité religieuse en une, on va dire, en une communauté, une minorité nationale. Dire que voilà, effectivement, on fait l'amalgame entre effectivement des personnes, on va dire, de couleur, trop bronzées peut-être, et des personnes musulmanes. Et dans le discours musulman, effectivement, c'est déjà suspicieux. Et ça, clairement, on le sent dans nos établissements en Seine-Saint-Denis.
La question centrale, les amis, c'est la question de l'islamisme. Et là, on a au téléphone Driss Siamedi, qui est président de l'association Baraka City, qui est, tenez-vous bien, une ONG humanitaire musulmane. Driss Siamedi, si vous m'entendez, expliquez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà, je tenais à vous remercier de m'accorder la parole. Alors, l'organisation humanitaire Baraka City, très simplement, je la présente rapidement. C'est une organisation humanitaire et de défense des droits de l'homme. Elle opère maintenant dans 22 pays, majoritairement en Afrique, Maghreb aussi, et puis des pays sensibles, la Syrie, Jordanie, Liban, et puis la Birmanie, où on a effectué des aides humanitaires.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez subi une perquisition?
Bon. Ce que je dénonce, c'est plus ou moins un marketing politique, donc ça ne nous a pas vraiment étonné le fait qu'on puisse être ciblé par une perquisition. Donc à 10h14, j'ai le directeur administratif et financier qui me contacte et qui me dit ça y est, il y a une perquisition. Donc là, le directeur de la police de l'Essonne nous explique que voilà, ça va se passer calmement et qu'il n'y a pas de problème. Bon, je regarde ce qui a motivé le préfet à ce qu'on puisse être perquisitionné, et puis là, je vois un motif assez surprenant, c'est que le préfet décrit l'organisation humanitaire comme étant islamique. Bon, jusque-là, ça va. Dont les membres sont des fondamentalistes. Et qu'en vue de nombreux voyages en Syrie, ce qui est totalement faux, on n'en a fait qu'un, mais qu'en vue de nombreux voyages en Syrie, il a de sérieuses raisons de penser qu'il y a des armes et des stupéfiants qui se trouvent à l'intérieur de nos bureaux. Puis on leur a expliqué qu'on est une organisation intègre. Et qu'on savait très bien que s'il y avait une perquisition qui devait y avoir lieu au sein de Baraka City, c'était un symbole. C'est un symbole marketing pour les politiques et les administrations. Et aussi, surtout, on voit ça, nous, en tout cas, comme une atteinte aux libertés individuelles et surtout une stigmatisation maintenant qui s'est faite à des hauts postes, quoi, à des administrations. Oui. C'est grave.
Ce qui est inacceptable là-dedans, c'est le procédé. S'il y a des choses à reprocher à votre association, à votre démarche, il y a des lois, il y a des enquêtes qui peuvent être faites. Là, ça ressemble à quoi? C'est n'importe quoi.
Alors justement, nous, on interpelle. J'ai interpellé le directeur de la police et je lui ai dit, mais que pour moi, excusez-moi le terme, mais c'est un torchon que je ne voudrais pas signer, dans la mesure où une organisation comme Baraka City, qui en 3 ans, je vous rappelle, a collecté 14 millions d'euros, si elle avait vraiment l'intention de commettre des actes terroristes sur le sol français avec ses fonds, elle aurait pu le faire, financièrement parlant, à 40 reprises. Donc je veux dire, c'est pas possible, on est connu et que c'est grave qu'on ait connu nos combats et puis notre... le côté cosmopolite de notre organisation et puis notre côté fraternel et notre force de rassemblement a fait qu'on a fait l'unanimité au sein de la communauté musulmane, mais aussi d'autres communautés, des juifs, des chrétiens qui sont mobilisés pour Gaza avec nous main dans la main.
Driss, est-ce que justement vous parlez de communauté musulmane à l'intérieur de votre ONG ou à l'extérieur, ceux auxquels vous vous adressez et que vous soutenez, que vous aidez, est-ce que vous avez senti ces jours derniers un changement de climat?
Bien sûr, c'est grave. Il y a un climat pour moi, mais c'est un climat qu'on a retrouvé dans les régimes totalitaires lorsqu'on était en Birmanie, par exemple. Des musulmans ont vraiment peur et ont la boule au ventre. Là, tout à l'heure, mon épouse est rentrée de chez ses copines et elle m'a dit, sa copine, elle a peur et elle a peur de se faire perquisitionner. On n'en est même plus là. Pourquoi? C'est parce que, voilà, être musulman maintenant, c'est douteux, c'est suspicieux. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peur. c'est quand même inquiétant. Et les musulmans, en tout cas, eux, sont inquiétés. Il y a eu des restaurants qui ont été perquisitionnés. Je pense notamment au Pepper Grill, où il y avait 100 clients, il y avait une centaine de clients. Lorsque j'ai discuté avec le directeur de cet établissement, il m'a garanti qu'il y avait des femmes, des enfants. Et puis après, bon, on a reçu tout un tas de plaintes, mais qui sont incroyables et qui ont laissé des musulmans dans la terreur. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a une stigmatisation d'État. C'est qu'il n'y a pas qu'il y a une stigmatisation qui est faite par des identitaires retranchés dans leurs idées. C'est que ça a été une haute sphère, c'est qu'il fallait apporter une réponse, parce que voilà, il va y avoir des élections, il va y avoir un certain nombre de choses. Donc on met en place des stratégies de marketing politique et puis on va taper sur du musulman et puis c'est dramatique et les musulmans sont effrayés.
Driss, on a justement une archive concernant le resto Pepper Grill où le gérant ou le patron explique comment ça s'est passé. Écoutez.
Samedi 20h30, Yvan est en plein service. Dans son restaurant, une cinquantaine de personnes est attablée.
Je suis en train de servir des clients. Quand je vois les policiers, en fait, armés, avec des fusils à pompe à la main, gilets pare-balles, des boucliers anti-émeutes, etc. Ils étaient une quarantaine. Il y en a qui montent à l'étage, il y en a qui descendent en bas. En fait, c'est pour ils installent leur périmètre de sécurité.
Les clients sont sommés de ne pas bouger, de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement, comme le montrent les images de vidéosurveillance.
À ce moment-là, j'entends des ils tapent au bélier en fait sur les portes. Enfin, j'entends des booms. Je me permets de leur demander s'ils veulent, préfèrent pas que je leur passe les clés pour pouvoir ouvrir, au lieu de casser les portes. Ils ne me répondent même pas.
Après 35 minutes de fouille et trois portes enfoncées, rien n'est trouvé. La police présente l'autorisation de perquisition signée de la main du préfet et repart sans plus d'explications. Yvan est amer.
Moi, ce que j'attendrais, ce sera un minimum, au minimum, voilà, des excuses.
Mais pourtant, ratisser large, c'est tout l'objectif de l'état d'urgence instauré par le gouvernement. Depuis le 14 novembre, plus de 1000 perquisitions ont été réalisées en France.
Voilà, Isabelle. Ouais. Isabelle Attard.
Le mot est dit, hein, ratisser large. Ratisser large et faire du chiffre. Et dans ce que j'entends, que ce soit les assignations à résidence, les perquisitions, je reviens encore au cas du couple de maraîchers bio.
Ouais.
Quand les 10 gendarmes se sont pointés chez eux, ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient. Mmh. Ils n'étaient pas au courant de qui étaient les personnes perquisitionnées. Mmh. Rien. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est un je m'en foutisme, juste pour le chiffre, pour faire peur. Mmh.
Moi, ce qu'on m'a demandé, juste pour rajouter David. Une dernière chose, quand je suis sorti de la cellule, justement, pour passer en audition, donc je suis tombé sur un policier qui me demandait « Ah, vous avez fait partie de la rafle d'hier ?»
Donc, c'est lui qui a utilisé ce mot-là.
Oui, effectivement, et ça m'a un peu interpellé de voir ce vocabulaire utilisé dans la bouche d'un policier. Donc ça avait évidemment beaucoup de sens derrière. Moi, ça m'a profondément choqué. Et ça montre à quel point, effectivement, on retrouve des situations qu'on ne pensait pas revivre en 2015. Ça, c'est clair.
Un dernier mot, Isabelle, et après sera Gérard, Mandia.
Oui, un dernier mot, parce que moi, ma grand-mère a échappé à la rafle du Veldiv parce qu'un voisin est venu frapper à la porte de chez elle. Et je dois dire que ça résonne particulièrement fort chez moi. Alors, j'essaye de rester de façon très lucide et très froide. Mais lorsqu'un des messages que je reçois sur ma page, c'est « Collabo, si on était en 44, on t'aurait tondu
ah. ».
Et que ce message se répète, ça fait froid dans le dos. Et je pense que n'oublions jamais de ne pas confondre sécurité avec sûreté. Et qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire, on a oublié le mot sûreté. Il faudrait davantage se rappeler les mots du Premier ministre norvégien, qui, après l'attentat d'Utøya, a demandé plus de démocratie. Mais c'était de la sûreté qu'il voulait donner à ses compatriotes. Ce n'était pas du tout sécuritaire. Moi, je suis triste. Je suis triste que mon pays soit devenu comme ça. Je suis triste qu'on n'accueille plus personne. Je suis triste d'avoir un gouvernement socialiste qui finalement se vante d'avoir plus expulsé d'étrangers, reconduit d'étrangers à la frontière que la droite. C'était les propos de Bernard Cazeneuve en parlant des étudiants étrangers. Se vanter de ça, c'est une honte. Appliquer cet état policier, c'est une honte. Et aujourd'hui, Olivier l'a dit tout à l'heure, on voit des mouvements qui se dressent contre ça, qui commencent à dire « maintenant c'est terminé ».
Oui,
et
c'est
je
ça,
le vois, a, je ouais, le vois, ouais, et ouais, il ouais, suffira ouais. de fédérer, et ces voix s'élèvent. Des journalistes prennent conscience. J'ai vu aussi des rédactions entières changer de ton dans leur analyse des événements politiques. Ça me fait plaisir et je sens qu'en fait, il faut garder espoir parce que c'est tellement absurde et c'est tellement extrême comme répression policière, qu'il y aura forcément un mouvement inverse et qu'il faudra être là à ce moment-là.
Forcément, oui, enfin, si on le fait, il ne sera pas tout seul.
Il ne sera pas tout seul. Non, on continuera d'expliquer.
On explique aussi dans
les foyers, on explique à l'Assemblée, on expliquera partout et on continuera de le faire.
C'est le dawa, toujours les mêmes qui tournent heureux, toujours les mêmes malheureux qui ont l'âme contente sous zéro. Ouais c'est ça, oui c'est ça, l'État ne fait pas de différence, 5h du mat, toujours les mêmes qui nettoient la France. C'est le dawa, toujours les mêmes qui tournent heureux, toujours les mêmes malheureux qui ont l'âme contente sous zéro. Ouais c'est ça, oui c'est ça, on veut pas de preuve d'indulgence, faut que ça bouge pour les gens en état d'urgence. Oh. Des générations ont grandi privées de liberté, l'État crée des criminels, il incarcère la puberté, les ados ressortent, hommes stocko, le dos en V. Ça ramène pas la joie au foyer, tout ce que le séjour a pu enlever.
Je veux mon compte au-dessus de zéro, l'état d'urgence fait des heureux silence. On nous prive de tout, 30 piges, la corde au cou, un bike, j'ai fait une croix sur l'état de providence. Avec ce que j'entends ici et là, hélas, la route tourne lentement. Je viens, toujours le même constat, depuis le temps qu'on se tape. Le malheur des uns fait du bien aux autres, c'est la merde. Génération meurtrie, je charrie pas, c'est pour les frères. Numéro 12, Borami, laisse faire.
C'est le dawa, toujours les mêmes qui se tournent heureux, toujours les mêmes malheureux qui ont leur compte en tout zéro. Ouais c'est ça, oui c'est ça, on veut pas de preuve d'indulgence, faut que ça bouge pour les gens en état d'urgence. Ouais c'est ça.
J'ai également convoqué le conseil des ministres, il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite. Et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire.
Gérard Mordillat, c'est à vous, faites-nous rire.
Merci, c'est gentil. Ça commence très bien quand c'est parti comme ça. On est sûr de gagner d'avance. Voilà, non mais moi, bien sûr, je vais parler de choses plus légères, parce que depuis quelques jours, ma boîte à lettres est envahie tous les jours par la brochure de Madame Valérie Pécresse pour l'Île-de-France. Alors le premier jour, je l'ai jeté à la poubelle, le deuxième, le troisième, puis au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais il y a une telle insistance, il faut quand même que je regarde, parce que je pense que c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut y avoir dedans? Alors j'ai regardé ça. Déjà, la couverture est assez mignonne, je vous la fais voir. On voit Madame Pécresse en photo, on croirait que c'est un peu une promotion pour un feuilleton sur TF1. Elle fait très bien une... Voilà. Et puis...
Jaloux.
Hein ?
Jaloux.
Oui, jaloux. Oui,
charmante.
Elle est très bien. Elle est charmante. Bon. Elle serait très bien sur TF1. Voilà. On ouvre la brochure. Et là, on voit quoi? On voit une photo de groupe de tous ses copains. Et on découvre que M. David Douillet est le numéro 2 dans la liste des Yvelines. Alors on se dit, David Douillet, le judoka préféré de Mme Chirac, qu'est-ce qu'il fait là? On va voir à quoi il sert. On le saura un peu plus tard. Alors je prends au hasard différentes choses qui sont là, qui vont nous ramener à David Douillet. Je casserai les ghettos en soutenant les maires qui veulent changer le visage de leur ville. Alors là, je suis entièrement d'accord avec elle. Il faut casser les ghettos. À Neuilly, à Boulogne, au Vésinet. C'est absolument impensable que ces communes n'accueillent pas des logements sociaux. Donc elle a raison. Il faut briser les ghettos. Et puis... on arrive à son grand cheval de bataille, si j'ose dire, la sécurité. Et là, elle dit « Je mettrai le paquet sur la sécurité parce qu'il n'est pas normal d'avoir peur quand on prend le métro ou quand on sort du lycée. » Je fais juste un petit passage sur David Douillet. On comprend pourquoi il est là. Parce que qu'est-ce que fait Madame Pécresse? Elle brise, elle casse, elle met le paquet. D'ailleurs, on peut se demander si le paquet, c'est pas David Douillet. Enfin bon... Bref, pour la sécurité. Alors, on se dit aussi qu'on comprend qu'elle ait peur en prenant le RER. Parce que s'il y a une chose qu'elle ne doit jamais faire de sa vie, c'est prendre le RER. Et donc, elle est un peu comme le touriste japonais qui soudain hésite entre le RER A, B, C, D, E et qui ne sait pas comment faire avec les correspondances. Donc, on comprend qu'elle ait peur. Quand elle a peur en sortant du lycée, peut-être a-t-elle de mauvais souvenirs de sa scolarité et... penser que sa mère ou son père l'attendait pour l'engueuler à cause de ses mauvaises notes. Mais c'est pas ça. Ça, c'était pour la plaisanterie. Pour ce qui n'est pas de la plaisanterie, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'elle veut 100% des transports vidéo protégés. Voilà. Elle veut fusionner les forces de sécurité SNCF, RATP, police des transports au sein d'une police unique. et avec des pouvoirs renforcés, fouille des sacs, contrôle d'identité, patrouille, intervention en civil, application de la loi anti-burqa. Et puis elle veut aussi rendre effective l'interdiction de la mendicité agressive dans les gares. Parce que les mendiants qui ne sont pas agressifs, eux, seront tolérés.
D'accord.
Et alors, il y a une chose très bien, un petit aparté qui m'est vraiment délicieux, sanctionner les fraudeurs. Nous rendrons obligatoire le port de la carte d'identité dans les transports pour lutter efficacement contre la fraude et la délinquance. Mmh. Alors ça, c'est assez mystérieux. Parce que comment avoir sa carte d'identité empêche la fraude et la délinquance. Mais enfin, bon. Et nous proposons d'interdire l'accès des transports aux fraudeurs multirécidivistes. Alors ça, c'est formidable. Ensuite, n'hésitons pas. Il va y avoir des bulles de sécurité autour des lycées. On va renforcer les forces de l'ordre avec des gilets pare-balles, des équipements vidéo, des voitures, etc. Il va y avoir un plan anti-cambriolage. Et puis on va surtout, et c'est son dernier point très important, elle s'intéresse évidemment au logement, il y a une partie très importante, financer avec l'État la construction de nouvelles prisons en Île-de-France. Voilà, voilà, ça va être... Ça va être vraiment assez très intéressant. Alors, bon, je passe rapidement. Tout ça est évidemment bête et criminel. On est atterré de lire des choses pareilles aussi bêtes. Et on en arrive au grand numéro. Non, je dis au passage que, par exemple, la culture, ça vient en dernière page et c'est 5 choses qui sont même pas du niveau de la discussion de bistrot. Mais son grand truc, c'est les impôts. Ah, les impôts, nous payons trop d'impôts. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « J'irai chercher l'argent partout ailleurs que dans vos poches ». Ce qui montre qu'à mon avis, elle a une expérience de pickpocket ou de tire-laine. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'aller attraper le porte-monnaie de quelqu'un dans sa poche. Mais Madame Pécresse l'a ça. Et puis, elle dit, et c'est son slogan de campagne, un slogan merveilleux, « Nous vous devons beaucoup plus ». Alors, j'invite tout le monde... tous ceux autour de cette table, tous les auditeurs, à envoyer dès demain à Madame Pécresse une facture, une note d'honoraire, une reconnaissance de dette pour qu'elle rembourse, puisqu'elle nous doit beaucoup plus. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle me doit, mais enfin, je vais faire le calcul, ça devrait assez vite m'organiser de très belles fêtes de Noël. Et puis, pour les impôts, eh bien, elle le dit finalement, cette chose qui est... la seule vérité qui existe en matière fiscale et qui a dit une fois pour toutes Pierre Dac, il n'y aura pas d'impôts nouveaux, les anciens seront doublés.
Merci Gérard Mordi. À la prochaine fois, tu t'occuperas d'Isabelle Attard. Hein, tu lui feras ça. Vous avez ça, Isabelle, vous aussi?
Non, parce que moi,
vous
êtes... mais je ne cumule pas les mandats. Je suis que députée, donc je ne suis pas comme David Douillet, deuxième d'une liste. Je ne suis pas comme Valérie Pécresse, qui est tête de liste alors qu'elle est députée.
Oui, mais quand donc, vous partez en campagne, vous avez un programme, vous avez...
Bien sûr. J'essaie de faire ce que je dis. Donc c'est déjà ça, mais... En tout cas, vous ne me retrouverez pas sur une brochure pour des élections autres que législatives.
Merci en tout cas. Merci Isabelle Attard, Olivier Besancenot, David, Grégory et Aurélien, les trois profs qui n'ont que des prénoms. Merci aussi à Driss Siamdi qu'on a eu au téléphone, à Gauthier qui n'a qu'un prénom lui aussi qu'on a eu au téléphone. C'était la Bible numéro 29, état d'urgence, le droit de la force ou la force du droit. Vous retrouverez toutes les informations sur le compte Twitter de là-bas si j'y suis, sur notre page Facebook, ainsi que sur le site là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger et la podcaster. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius, préparée par Anaël Verzo et Jonathan Duong, et c'est Grégory Salomonovitch lui-même qui attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 85 08 37 37 01 85 08 37 37. Salut, merci à tous.